Bonjour, émission de l'Église ouverte en Eure-et-Loir, au micro l'abbé Rambure, avec mon invité, monsieur Patrick Auguet. Bonjour monsieur Auguet.
Bonjour père.
Voilà, nous voulons vous parler aujourd'hui, chers amis, de l'église Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou. C'est une très belle église, je dois dire, et que quand je viens célébrer, j'ai encore fait hier soir, eh bien, c'est avec plaisir dans cette église. Elle a pourtant été fermée pendant longtemps.
En effet, cette église qui est millénaire et qui est classée monument historique avait vécu des moments difficiles à la fin des années 90, début des années 2000, puisque pendant 17 ans, elle a été fermée pour cause de dégâts des eaux, pour cause d'insuffisance d'entretien.
Écoutez, moi j'ai vu de l'herbe pousser dans cette église, sur le pavé lui-même.
Voilà, donc effectivement...
17 ans, c'est long. Hein.
C'est dire qu'il y avait nécessité de prendre des mesures fortes. Alors ça a été fait... pour une part par la ville de Nogent-le-Rotrou, puisque comme vous le savez, c'est la ville qui est propriétaire de l'église et qui est responsable en quelque sorte du clos et du couvert de l'église. Et donc la toiture a été refaite et on a pu effectivement, à partir du moment où l'église était remise en état sur le plan de son étanchéité, je dirais, on a pu entreprendre une action. Et cette action a été entreprise, d'ailleurs à l'initiative de vous-même, Père Rambure, quand vous êtes arrivé à Nogent, par la création d'une association que...
Les Amis de Saint-Hilaire.
Les Amis Saint-Hilaire.
Vous êtes le président, cher ami.
Voilà, je me suis laissé convaincre par vous qu'il fallait effectivement prendre un peu le taureau par les cordes, si je puis me permettre cette expression un peu triviale. Et on a donc constitué une association en 2010, qui a été ensuite animatrice avec la paroisse, bien entendu, et avec la ville, puisqu'un partenariat s'est installé de façon très positive.
Oui. Mais je dois dire qu'on doit beaucoup quand même à votre association, parce qu'il y a eu beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de bénévolat pour sortir les bancs, pour nettoyer toute l'église.
Voilà, je crois qu'il était important de montrer, je dirais, aux financeurs potentiels que sont la ville, le département, la région, l'État, quand c'est possible, eh bien qu'il y avait une mobilisation en faveur de cette église. Parce que cette église, elle représente quelque chose dans la mémoire et dans la sensibilité, en quelque sorte, des Nogentais.
Très très vite, vous avez eu à peu près 250 adhérents.
Alors on a eu 200, et on a toujours à peu près 250 adhérents, ce qui veut dire que l'intérêt pour cette église ne faiblit pas. Mais il faut dire qu'on a été amené à faire un certain nombre de travaux. Alors d'abord la recomposition du chœur et la paroisse qui avait lancé une souscription qui a bien marché d'ailleurs.
Qui a bien marché, oui.
Et qui nous a permis de recomposer, enfin qui a permis de recomposer le chœur pour tenir compte des évolutions à la fois liturgiques et également architecturales. Et puis ensuite, alors, nous nous sommes attaqués à forte partie, c'est-à-dire à la réfection des verrières, qui en avait bien besoin. Et donc, c'est le
ça
point
coûte cher, hein.
Sur lequel, effectivement, nous sommes en train de finir de travailler, puisque la dernière verrière la plus abîmée va être restaurée l'année prochaine.
En 2017. Hein. On peut dire le chiffre, il faut 50 000 euros.
Il faut 50 000 euros, effectivement, parce que il faut recomposer tout l'entourage en pierre de taille.
Donc il faut redémonter tous les vitraux.
Il faut démonter les
vitraux. Pour refaire la maçonnerie et les remonter après.
Exactement. Donc c'est un travail, effectivement, fait par des spécialistes. L'église est classée, donc la direction des affaires culturelles est très attentive à la façon dont les travaux se font. Et c'est vrai que c'est assez coûteux.
Mais quelque chose aussi, monsieur Auguet, à laquelle vous avez beaucoup tenu, c'était la restauration un petit peu du chemin de croix.
C'est vrai qu'on a un chemin de croix assez original et dont il y a simplement deux ou trois exemplaires dans toute la France, qui est une peinture sur métal, méritait d'être restaurée, d'être nettoyée et remise en valeur. Et nous l'avons fait là encore avec des spécialistes.
Et puis des bénévoles.
Et des bénévoles qui ont participé aussi à cette opération. Et donc maintenant, notre objectif, puisque cette restauration a eu lieu, eh bien, c'est de pouvoir mettre en valeur le chemin de croix en permettant un éclairage qui mettra véritablement les couleurs très vives de ce chemin de croix dans une
perspective. C'est quelque chose qui est programmé maintenant, ça.
Alors, en principe, ça devrait être fait avant la fin de l'année. Donc, j'espère que pour Noël, les fidèles qui viendront là pourront effectivement profiter de cette restauration.
Je dois dire que, non seulement il y a 250 adhérents, il y a beaucoup de gens qui passent voir cette église. Et c'est, l'été, c'est ouvert. Elle est ouverte l'après-midi. Hein. Et vous m'aviez donné un chiffre.
Écoutez, cette année, alors donc ça c'est la paroisse qui organise et qui a la possibilité de mobiliser des bénévoles. Ça n'est pas toujours simple, je le sais, mais enfin elle y réussit. Eh bien, on a eu cette année à peu près 500 visiteurs dans l'ensemble des 3 mois où cette église est ouverte l'après-midi. Et avec des annotations d'ailleurs sur le livre qui est mis à leur disposition, qui sont sympathiques, parce que c'est véritablement une église qui, par son ampleur et maintenant par justement sa restauration, eh bien attire l'attention non seulement des fidèles, mais également des gens qui tout simplement s'intéressent au patrimoine nogentais.
Oui, c'est vraiment une très belle église. Alors l'éclairage, bien sûr, a été refait. Il y a eu du chauffage aussi, hein. Et puis, comme vous avez dit, le chœur a été restauré pour convenir aux règles liturgiques d'aujourd'hui. Et il y a la messe tous les dimanches soirs, à 18h15, dimanche et jour de fête, hein, c'est régulier. Et puis, bien entendu, l'église aussi peut servir pour les inhumations, pour les mariages. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment se marier dans cette église. Beaucoup de jeunes qui aiment se marier dans cette église.
Oui, il y a une demande, si je puis dire, de Saint-Hilaire, de l'église Saint-Hilaire pour des cérémonies familiales. Il y a beaucoup, moi je suis frappé quand on voit les gens qui viennent visiter, les gens de Nogent et des environs, c'est effectivement les souvenirs qui reviennent à leur mémoire parce que il y a eu un baptême, un mariage, une communion, malheureusement des funérailles, et donc on sent que ça fait partie de la mémoire nogentaise. Voilà, c'est une église qui fait partie de la mémoire nogentaise, et c'est d'ailleurs pour ça que la mobilisation est toujours aussi forte.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Eh bien, nous continuons notre discussion avec M. Auguet, président des Amis de l'église Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou, qui donc a été rouverte il y a maintenant 3 ans et demi, bientôt, c'était à la Pentecôte.
2013.
On était très fiers, très très contents. Et donc, vous nous avez expliqué tout le travail qui s'est fait en partenariat avec la paroisse et la mairie, et puis votre association. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut trouver de l'argent.
Alors, effectivement... j'ai cité tout à l'heure le montant de la réfection d'une verrière, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire également. Et donc nous sommes amenés à mobiliser au maximum les bonnes volontés. Alors il y a d'abord bien sûr les membres de l'association qui acceptent de cotiser. Il y a également l'appel au mécénat. Je dois dire qu'il est assez satisfaisant de constater qu'un certain nombre d'entreprises, de commerces acceptent de donner un certain nombre de moyens financiers pour soutenir l'action patrimoniale, puisque là il s'agit effectivement d'entretenir et de maintenir et de se positionner en quelque sorte à côté d'autres financeurs publics qui n'ont pas des moyens illimités. On le sait qu'à l'heure actuelle, ni l'État, ni les départements, ni la ville n'ont des moyens exceptionnels. Et donc il faut que l'association puisse apporter à point, si vous voulez, aux dépenses qui sont nécessaires.
C'est quand même merveilleux de penser que eh bien, ce mécénat existe et ça marche.
Voilà, c'est vraiment intéressant parce que là encore, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que s'agissant du patrimoine en général, mais de ce patrimoine nogentais en particulier, eh bien, il y a une réponse qui nous permet effectivement d'apporter aux financeurs publics des moyens qui ne sont pas du tout négligeables et qui sont en quelque sorte un levier pour essayer effectivement de mobiliser les fonds publics.
Alors dites-moi, vous faites très fort parce que l'année dernière, on avait eu les chœurs de l'armée française hein, qui étaient venus et c'était assez brillant. Aujourd'hui, vous faites venir encore un autre chœur, alors prestigieux également.
Alors, parmi les objectifs de l'association, il y avait bien sûr ce que vous avez dit tout à l'heure, Père, sur l'aspect cultuel. Il y a l'aspect patrimonial avec toutes les restaurations nécessaires. Et puis nous avions pris aussi l'engagement, c'est-à-dire de mettre en valeur en quelque sorte notre patrimoine à partir d'événements culturels. Alors, en effet, l'année dernière, nous avions fait venir le chœur de l'armée française. L'année d'avant, c'était le quatuor de Chartres, mais avec Michael Lonsdale, qui était là pour dire, en quelque sorte, le texte des sept paroles du Christ, de Heine. Et cette année, eh bien, effectivement, nous avons pu obtenir la participation. Ça sera le 9 décembre prochain. Notez bien,
le 9 décembre.
À 20h.
Vendredi 9 décembre.
Vendredi 9 décembre à 20h, le chœur de l'armée russe.
Eh ben, bravo.
Alors, je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que, d'abord, c'est un événement tout à fait exceptionnel. Et en plus, c'est une prestation qui va se faire quelques jours, deux semaines avant Noël, et à partir justement d'un répertoire de chants de Noël, de chants traditionnels et de chants sacrés.
Donc, et de chants sacrés.
Ça sera une sorte
et avec des voix toujours très graves.
Alors, hein, avec des voix très puissantes.
Hein. Oui, oui, oui.
Et il y aura en plus une soprano qui sera là et qui va effectivement compléter en quelque sorte le chœur des hommes de l'armée russe, si vous voulez. Donc il va y avoir effectivement une sorte de concordance entre ce que la soprano pourra faire, notamment pour les chants religieux, et ce que fera effectivement le chœur des hommes de l'armée russe.
Donc le vendredi 9 décembre.
Alors vendredi 9 décembre.
Prochain, c'est dans pas longtemps maintenant. Hein.
Voilà, et donc c'est à 20h. Et alors le programme, je ne vais pas évidemment le citer tout entier, mais il y a des romances russes, des chansons populaires cosaques, il y a bien sûr des chants religieux de Noël, allemands, russes, français, du Mozart, du Schubert, enfin vous voyez c'est assez éclectique,
D'accord. Mais
ça représente si vous voulez tout ce que dans le fond à la fois les Slaves, en quelque sorte les orthodoxes, et puis le reste de l'Europe, Schubert, Mozart, Caccini.
Oui, il y a même des chants que l'on connaît.
Et il y a des chants français,
de Noël,
bien entendu, aussi.
De Noël.
Eh bien, ça permettra, mon beau sapin, entre le bœuf et la maigrie, enfin, voilà. Ça permettra de montrer que finalement...
On les écoutera de manière un peu différente.
Voilà. Et que cette grande Europe... Eh bien, elle a une sensibilité religieuse, disons, qui peut s'exprimer, et notamment à la veille de Noël. J'espère que beaucoup de parents viendront avec leurs enfants, parce que ça sera une sorte d'introduction aux fêtes familiales et religieuses que sont les fêtes de Noël.
Alors, il faut s'inscrire, sans doute, pour avoir des places.
Alors, bien sûr, l'Office de tourisme de Nogent, donc, sera en charge de la réservation des places.
Alors d'abord, il faut dire que ça ne sera pas à l'église Saint-Hilaire, malheureusement,
oui.
Parce que les bas-côtés ne sont pas encore accessibles, il y a encore des travaux à faire, et donc il n'y a que la nef, il n'y aurait pas assez de monde.
Voilà, nous n'avons l'accès que 300 personnes à l'église Saint-Hilaire dans la nef, et les bas-côtés sont condamnés pour l'instant. Le concert sera donné à l'église Saint-Laurent, mais au profit de la restauration de l'église Saint-Hilaire. Alors nous avons mis en vente les réservations à l'office de tourisme de Nogent, et donc c'est à lui qu'il faut s'adresser pour obtenir les places qui s'échelonneront entre 30, 25 et 20 euros.
Et 10 euros pour les enfants.
Et 10 euros pour les enfants, car nous estimons que dans cette période à la fois festive et religieuse que sont les fêtes de Noël, eh bien, c'est important que les familles puissent venir profiter de ce concert exceptionnel.
Oui, on peut dire un concert exceptionnel. Eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale avant de parler maintenant d'un livre qu'on a fait sur Saint-Hilaire.
Сказав дівчино, прощай, вікони ковороненькі не сіта. гуляй, боски, боски, козачі, твоя дівчина плаче, як ти ж мене покидаєш, тільки подумай.
Eh bien, nous sommes toujours dans cette émission Église ouverte en Eure-et-Loir et nous parlons de l'église Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou qui a donc été rouverte à la Pentecôte 2013. Et nous avons parlé d'un beau concert qui aura lieu le vendredi 9 décembre à l'église Saint-Laurent pour le profit de l'église Saint-Hilaire avec les chœurs de l'armée russe, s'il vous plaît. Nous voudrions maintenant parler avec nos auditeurs d'un livre qui va bientôt paraître. J'espère qu'il sera prêt, on n'est pas sûr, mais j'espère qu'il sera prêt le 9 décembre. Un livre sur Saint-Hilaire. Alors, il y a eu beaucoup de... Je suis avec M. Patrick Auguet, qui est le président de l'association Les Amis de l'Église Saint-Hilaire. Et ce livre-là, il y a eu beaucoup de... Il y a eu plusieurs personnes qui ont participé.
Oui, on a essayé de, effectivement, de réunir une palette de spécialistes qui puissent faire une analyse assez précise de tous les atouts de cette Église, y compris d'ailleurs de ses faiblesses quand il y en a. Et nous avons réuni à la fois des inspecteurs généraux des monuments historiques, nous avons réuni des historiens, nous avons réuni des spécialistes du patrimoine. Nous avons effectivement travaillé avec la présidente de Chartres Sanctuaire du Monde pour ce qui concerne l'aspect des vitraux.
Madame Delaire-Mathéus.
Madame Delaire-Mathéus. Nous avons travaillé avec Laetitia Guillemin pour la restauration des sculptures, puisqu'elle en est là, effectivement une des actrices. Nous avons travaillé donc avec Philippe Sigueret.
Philippe Sigueret et Monsieur Lescroix.
Et Monsieur Lescroix, qui sont les deux inspecteurs généraux en retraite, mais toujours actifs sur les monuments historiques. Et donc cet ensemble de Denis Guillemin, historien.
Madame Hamelin, qui est la directrice au Château Saint-Jean.
Madame Hamelin. Donc voilà, toute cette palette, en quelque sorte, de compétences s'est réunie à plusieurs reprises pour mettre... en quelque sorte noir sur blanc, ce que cette Église a connu comme évolution. C'est une Église, je le disais tout à l'heure, millénaire, et qui a été à plusieurs reprises améliorée, transformée, et donc il était important de montrer que ce monument était un monument qui est un monument vivant. Chaque génération a apporté sa part à son évolution, et nous avons donc maintenant... effectivement, une église qui renaît en quelque sorte après les 17 années de fermeture, qui renaît à la vie. Et donc, nous voulons en porter témoignage dans ce livre.
Disons que nous ne sommes pas les premiers à avoir fait un livre sur l'église Saint-Hilaire. Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais là, il y a quand même des nouveautés. Donc, ce livre va se décomposer en 4 chapitres. Le premier chapitre, ce sera justement les origines. Vous aviez dit l'autre tout à l'heure que c'était une église millénaire. Il ne reste pas grand-chose de l'origine. Mais malgré tout, on remonte au XIe siècle quand même.
Il y a en effet au moins un pilier qui porte le témoignage de cette période.
Voilà, oui. Alors là, ce sont nos architectes qui ont fait des découvertes, et des découvertes qu'on ne connaissait pas avant. Ils ont pu monter dans les combles de l'église et faire des rapprochements pour dater les différentes époques de la construction ou reconstruction de cette église.
Alors, il est vrai
on peut peut-être donner ce que M. Sigueret avait résumé, qui va apparaître dans ce livre-là. D'abord, fin XIIe siècle, c'est la construction de l'église romane. Et voilà. Dont subsiste la base du clocher et les piles de la première travée de la nef. Bon. Et puis on a retrouvé après ça, fin XIIIe, début XIVe siècle, alors d'autres vestiges aussi. C'est le chœur, la construction du chœur. Et puis aussi une partie grandiose avec les baies, les baies, les fameuses baies de ces verrières hein, que l'on voit encore aujourd'hui. Et puis c'est le XVIe siècle, et puis le XVIIe siècle, voilà. Il y a tout le temps eu des améliorations, tout le temps eu des transformations dans cette église.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont véritablement scruté, j'allais dire pierre par pierre, chaque élément de cette structure, de la structure de l'Église, pour pouvoir retrouver, car malheureusement il y a eu des livres antérieurs, mais on n'avait pas d'archives véritablement axées sur cet aspect patrimonial et architectural de l'Église. Et ils ont fait un certain nombre de découvertes qui nous permet d'ailleurs de mieux situer les périodes dans
Exactement.
Lesquelles l'Église a évolué. Donc le chœur au XIIIe siècle. Ensuite,
on espérait que la nef puisse suivre voilà. avec autant de hauteur et de grandeur, j'allais dire. Puis, sans doute que les moyens ont manqué.
Voilà, hein? Ça n'a pas été tout à fait le cas. Donc, effectivement, au XVIe siècle, la nef a été construite, mais avec un décalage par rapport au chœur. Il a donc, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il y a ce
l'arc
qu'on appelle
triomphal,
une archivolte.
Oui.
Donc, il y a eu effectivement des découvertes qui ont été faites pour mieux comprendre la façon dont les architectes, les financeurs, les pasteurs de cette église au cours des siècles ont fait évoluer ce monument qui aujourd'hui effectivement connaît l'apparence que vous lui connaissez. Le 19e siècle a été aussi important.
Très
parce
important,
que
oui.
Il y avait auparavant une nef qui était en bois, lambrisé, et donc elle a été en quelque sorte complétée en soubassement par une voûte en briques et plâtre, c'est mieux que celle que l'on connaît aujourd'hui, qui en a évidemment un peu restreint l'ampleur de l'église, mais qui effectivement à cette époque-là était
ça doit être plus confortable quand même,
voilà.
Parce que ça doit faire moins froid.
C'était moins haut
et donc
moins froid. Donc vous voyez que l'église est un monument qui a vécu beaucoup d'évolutions. Et donc,
ben oui, chaque génération a apporté un peu sa pierre.
Voilà, hein, c'est très important.
Et oui.
Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire.
De continuer.
Plus modestement, puisque nous héritons d'un bâtiment, si je puis m'exprimer ainsi, qui maintenant est constitué. Et ce que nous essayons de faire, c'est non seulement de l'entretenir, mais effectivement de l'embellir au maximum et de le mettre en valeur. Il y a l'éclairage intérieur, il y a un éclairage extérieur aussi qui permet de valoriser le clocher. Donc voilà tout ce que...
Alors après l'architecture, il y a un chapitre sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Hein. Donc en particulier l'autel, tout le chœur, l'aménagement du chœur. Et donc de très belles descriptions sur les vitraux. Ces magnifiques verrières qui sont exceptionnelles.
Alors il y a en effet un ensemble de sept fenêtres constituées par des vitraux qui ont chacune des fenêtres qui ont chacune deux baies et
une rosace
qui sont surmontées d'une rosace avec cette originalité que chacune des rosaces représente
un sacrement.
Des sacrements.
Voilà.
Et je crois que c'est assez rare aussi.
Oui.
Donc nous avons ces vitraux que nous sommes en train de restaurer et qui représentent alors des pères de l'Église, des saints bien entendu qui ont marqué comme Saint-Hilaire, l'évangélisation du Perche, mais d'autres pères de l'Église qui sont
C'est-à-dire
plus
grâce
lointains.
À Saint-Hilaire, qui a ordonné prêtre Martin,
oui.
Saint-Martin, qui lui, alors, en tant qu'évêque de Tours, a envoyé ses moines dans nos régions pour l'évangélisation.
Voilà, donc c'est peut-être pour ça, effectivement, que Saint-Hilaire a tant d'églises dans le Perche,
voilà.
Et qui sont dédiées à... qui lui sont dédiés. Et alors beaucoup de pères de l'Église. Et dans le livre, il y a donc cette énumération et il y a rapide exposé de ce que représente chacun de ces pères de l'Église. Donc on a là une sorte de d'histoire de l'Église
oui.
en images,
oui, oui,
n'est-ce
oui.
pas que
c'était réalisé par les ateliers Lorrain de Chartres.
Oui.
Hein, et on voit, parce que ça a été repris après la guerre, ça a été démoli pendant la guerre, et donc Lorrain a retravaillé ses vitraux après la guerre, et il a marqué le nom du curé de l'époque, l'abbé Boutry. pour ceux qui connaissent, c'est intéressant, le vieil abbé Boutry, curé de Saint-Hilaire, et on le voit dans un parchemin que Saint Jean tient à la main, un soir, avec le nom de l'abbé Boutry.
Voilà, ce qui prouve que tous ces vitraux n'ont pas été, enfin, qui datent du 19e siècle, ont été en effet
repris et restaurés
après la guerre.
Alors après ça, il y a aussi bien sûr toute la statuaire. Alors il reste pas beaucoup de statues avant la Révolution française.
Non, il y a certainement eu pas mal de saccages à l'époque de la Révolution, comme d'ailleurs il y a eu le saccage du clocher et ce qui s'est passé avec les cloches, puisque un décret de l'époque avait autorisé, il y avait plusieurs cloches, mais une grosse cloche et puis de plus petites cloches. Et ce décret dit que la personne qui était chargée de déménager en quelque sorte ces cloches devait respecter la plus grande cloche, mais que pour les autres, il pouvait les jeter par les ouvertures du clocher, et c'est ce qui s'est passé, elles se sont fracassées
sur les tombes, sur les tombes, parce qu'il y avait encore le cimetière autour de l'église.
Voilà, donc voilà, ça fait partie effectivement des événements qui ont jalonné.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est que autrefois, la route qui menait à Berduy et l'autre route qui menait à Condeau se réunissaient devant l'église Saint-Hilaire et passaient de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est fermé. Après, au moment de la construction de la gare et du chemin de fer, on a rouvert une route plus importante du côté sud de l'église.
Alors voilà, et donc ça a deux conséquences pour l'église. C'est d'une part que, effectivement, le cimetière a été transféré, mais que comme il a fallu, pour passer par-dessus l'Huisne, faire passer cette route par-dessus l'Huisne, il a fallu remblayer, et donc l'église apparaît un petit peu en contrebas par rapport à la route, ce qui n'était pas le cas, effectivement, à l'origine, lorsque la rue passait par la partie nord.
Alors, il y a après ça un autre chapitre sur les éphémérides. Alors, c'est un petit peu les histoires, les petites histoires qu'on a pu récolter dans le temps et qui sont rappelées là.
Voilà, il y a eu différentes cérémonies. Par exemple, après la Première Guerre, on a honoré Jeanne d'Arc. Et il y a eu donc effectivement un vitrail qui lui a été consacré et qui a été inauguré. Et puis, il y a eu ensuite un monument aux morts. Il y a un monument aux morts dans l'église, ce qui est assez original.
Enfin, il est original, ce monument. Il mérite d'être
par
regardé.
Par sa façon, effectivement, d'avoir été peint comme il
l'a été. C'est un vicaire de Saint-Laurent, Saint-Hilaire.
Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'il y a un orgue qui, effectivement, devra être restauré dans les prochaines
qui a été acheté par l'abbé Tronchet, un orgue qui était dans une église de Bordeaux, et cette église devait être tronquée un peu, donc on avait démonté l'orgue, et c'est l'abbé Tronchet qui l'a acheté et qui l'a replacé dans l'église Saint-Hilaire. Voilà. Et bien voilà tout ce que l'on pouvait dire sur notre église. Le livre va bientôt paraître. Merci à vous, monsieur Huguet, de nous avoir raconté tout cela. Et puis rendez-vous alors au vendredi 9 décembre pour ce beau concert avec les chœurs de l'armée russe.
Voilà, en effet, on espère que les familles vont se mobiliser pour venir profiter de cet événement exceptionnel.
À l'église Saint-Laurent, pour l'église Saint-Hilaire.
Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь.